L'atelier des médias, Julien Legotte.
Avez-vous remarqué ? Chaque jour amène son lot d'histoires de piratage informatique, de vol de données, de questions de cybersécurité et de mots de passe à changer d'urgence. Et puis, souvenez-vous, la semaine dernière, nous parlions du poids démesuré des géants du numérique, des Google, Amazon, Facebook et Apple et de toute leur puissance, mais aussi de la loyauté qu'on est en droit d'en attendre. Loyauté, oui, une belle expression pour réclamer un peu plus de constance et un peu plus de clarté pour nous autres, internautes qui publions, partageons et commentons chaque jour. Oui, quand je signe des CGU, des conditions générales d'utilisation, je veux être sûr de bien les comprendre et que les règles du jeu ne changeront pas tous les jours comme c'est finalement trop souvent le cas. Alors, quelle n'a pas été ma surprise en voyant passer mardi dernier sur Twitter, pour ne pas le nommer, un article intitulé de la manière suivante « Nous voulons utiliser les données de manière responsable ». Et devinez qui a eu le culot de prononcer ces mots, la numéro 2 de Facebook.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors forcément, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis d'abord dit, j'espère bien que mes données sont et seront utilisées de manière responsable. Après quoi, évidemment, je me suis rappelé toutes ces photos, ces images, ces informations personnelles dont j'avais abreuvé mon compte Facebook. Eh bien, toutes ces données, je ne les ai pas partagées dans un espace régulé par une puissance publique et démocratique, non. Je les ai tout simplement abandonnées dans un grand centre commercial à ciel ouvert où nous sommes 1,5 milliard à nous promener au quotidien. Un espace accessible à tout moment depuis mon téléphone sud-coréen, mais aussi un espace dont je ne sais pas finalement qui en assure le contrôle et la sécurité. À telle enseigne que j'ai eu envie aujourd'hui de vous poser la question suivante, mais qui veut la peau des internautes ? Nous essaierons d'y répondre d'abord en compagnie de Tristan Nitto, fondateur de Mozilla Europe, qui a publié en octobre 2016 « Surveillance 2.... Les libertés au défi du numérique, comprendre et agir », un livre publié aux éditions CEF. Et vous verrez, il nous parlera de cette traque permanente qui pose bien des questions. En seconde partie, c'est avec Nicolas Arpagian, auteur d'un « Que sais-je sur la cybersécurité » que nous essaierons pour le coup de comprendre qui sont les forces qui, sur Internet, s'affrontent par attaque informatique interposée. Tout un programme en somme, mais tout de suite, on appelle Patient Ligodi à Kinshasa pour nous parler du site actualité.cd. Bonjour Patient.
Bonjour Julien, comment tu vas ?
Ça va très bien, merci. Alors vous êtes journaliste, vous êtes installé à Kinshasa et vous êtes le directeur général du site actualité.cd qui est né, si je ne me trompe pas, en août 2016. Alors Patient Ligodi, actualité.cd, qu'est-ce que c'est ?
Actualité.cd, c'est un site internet d'information spécialisé en politique, sécurité et économie. Nous sommes un site qui emploie 8 personnes en fait au total, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au quotidien sur la collecte, le traitement et la diffusion des informations de la République démocratique du Congo. Alors, actualité.cd, c'est également les nouveaux-nés du paysage médiatique congolais. Nous avons environ 25 000 visiteurs uniques par jour et par mois, on arrive à totaliser une bonne moyenne d'un million de visiteurs dans un pays qui est caractérisé par un taux de pénétration d'Internet d'environ 4% de la population nationale. Et donc, actualité.cd essaye de répondre à une question, à une seule, comment faire pour accéder à l'information congolaise à collecter, traiter et diffuser par le Congolais. Donc, on est parti d'un constat, c'est que aujourd'hui, pour aller chercher l'information, on ne va pas allumer sa radio ou sa télé, le premier réflexe, c'est aller sur Internet. Or, quand on va sur Internet, ce qu'on trouve, c'est de l'information produite par RFI, par Jeune Afrique et par d'autres médias qui sont basés en Europe. Alors, on a essayé de faire quelque chose qui permettra aux Congolais de suivre l'information traitée par les Congolais.
Avec un parti pris, Patient Ligodi, si je ne m'abuse, qui est d'accompagner les acteurs de la vie politique au sens large, c'est-à-dire ceux qui manifestent, ceux qui ont envie de faire en sorte que les choses bougent en RDC. Patient Ligodi.
Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, ceux qui manifestent, ceux qui sont dans la rue, ceux qui vont casser, c'est des jeunes d'environ 14, d'une tranche de 14 à 35 ans, des jeunes qui n'attendent pas les 20 heures de la télévision nationale pour se faire une opinion, pour avoir une information. C'est des jeunes qui ont des nouvelles habitudes de consommation de l'information et qui sont tout le temps sur leur téléphone, qui sont tout le temps sur smartphone, sur WhatsApp, sur Facebook et qui, voilà, aujourd'hui, contribuent à faire en sorte que le paysage politique congolais puisse basculer et qui ont leur mot à dire. Donc nous nous sommes dit, ok, on va s'orienter essentiellement vers ces jeunes qui bouleversent les paysages politiques congolais. Nous, on va les suivre également, donner la parole à ces jeunes. C'est ce qu'on fait sur actualité.cd. Donc, on est focus sur un public qui est entre 14 et 35 ans. Et évidemment, il y a également des personnes un peu plus âgées qui sont sur actualité.cd, évidemment, des politiques.
Patient Ligaudy, on l'entend, il y a une dimension entrepreneuriale finalement dans votre travail. Vous avez déjà travaillé dans des projets finalement de création de médias comme Univers FM. Si on se recentre sur actualité.cd, quelle est la prochaine étape pour vous, Patient Ligaudy?
Alors, la prochaine étape pour nous, c'est déjà de consolider le web d'information en RDC. C'est faire en sorte que nous avons créé avec des amis une association qu'on appelle l'Association des médias d'information en ligne en RDC. On a tenu la première table ronde sur les médias informés sur Internet avec les conseils supérieurs d'audiovisuel et de la communication en RDC. Nous voulons en fait, avec l'expérience actualité.cd, aider des autres confrères, des autres amis qui sont également dans l'équipe informée à pouvoir bien donner de l'information, à valoriser Internet dans ce qui concerne les médias d'information ici en République démocratique du Congo. Donc, pour nous, la prochaine étape en tant que structure, c'est d'aider en fait à la construction d'un écosystème sur les médias d'information, les médias d'information en ligne, en RDC, et surtout de pouvoir contribuer à l'émergence de nouveaux types des médias en République démocratique du Congo. Ça peut passer par actualité.cd, par Univers FM ou par foot.cd ou encore par la structure, l'association des médias d'information en ligne. Mais l'idée, notamment, c'est de créer un vrai écosystème qui permettra, en fait, aux jeunes qui sont encore à l'université de ne pas abandonner les journalistes, mais pour aller faire autre chose. Parce que nous pensons que les journalistes sont encore de beaux jours devant.
Et l'atelier des médias de RFI suivra ça de près, évidemment. Patient Ligaudy, je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste et que vous êtes le directeur général du site d'information actualité.cd. Merci Patient.
Merci beaucoup Julia.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'atelier des médias? Le site Breitbart menace-t-il la culture journalistique allemande? L'arrivée annoncée du site Breitbart, un média américain politique d'extrême droite en Europe, fait débat et pose beaucoup de questions au sérail médiatique allemand. D'ailleurs, l'un des leaders de l'AFD, un parti d'extrême droite allemand, s'est exclamé la semaine dernière sur Twitter « Breitbart arrive en Allemagne, formidable, ce sera un vrai tremblement de terre dans notre paysage médiatique défraîchi ». Paysage médiatique défraîchi. Ce que sous-entend cette expression, c'est que les codes journalistiques en Allemagne datent de l'après-guerre et ne répondent pas ou ne répondent plus aux attentes du public d'outre-Rhin. Il faut dire que les irrévérences, les petites phrases, voire les fausses informations publiées à tire-larigot depuis des années par le site américain Breitbart n'ont rien à voir avec les manières policées et le respect des règles des médias en Allemagne. Oui, parce que outre-Rhin, un code tacite veut que les médias coopèrent avec les autorités ou les attachés de presse pour maintenir une forme de statu quo politique. Les médias d'information allemands sont enracinés dans une tradition d'après-guerre de reportages neutres, équilibrés et exprimant diverses opinions tant que ces reportages sont conformes à la politique commune d'après-guerre qui évite le nationalisme explicite et privilégie un consensus poli, explique la journaliste Soumi Somaskanda sur Slide.fr, et cela peut passer par des arrangements sur les interviews, voire des relectures et parfois des refus de publier de la part des interviewés. Or, aux États-Unis, le succès du site Breitbart, qui est dirigé par Steve Bannon, faut-il le rappeler, qui est un conseiller de Donald Trump, a augmenté progressivement avec la défiance croissante du public américain à l'égard des médias jugés trop proches des pouvoirs en place. Autrement dit, c'est tout le sérail journalistique en Allemagne qui s'interroge sur ces pratiques. 1. Comment rester le plus transparent et le plus indépendant possible, mais surtout 2. Offrir une parade efficace à des médias sans vergogne qui publie parfois des contre-vérités. Oui, parce qu'il y a quelques jours, un article publié sur la version américaine de Breitbart a raconté qu'une bande de musulmans avait mis le feu à une église dans la ville de Dortmund le soir du Nouvel An. Cette histoire est évidemment complètement fausse, mais ça ne l'a pas empêché de faire le tour du net en Allemagne et d'attirer évidemment l'attention sur l'urgence de la situation. Si Breitbart débarque en Europe, il faut espérer que les codes journalistiques vont bouger en Allemagne pour mieux barrer la route à la désinformation. La réforme du droit d'auteur en Europe risque-t-elle de tuer nos bons vieux liens sur les réseaux sociaux ? C'est en substance l'idée que défend notamment la députée européenne issue du parti pirate allemand Julia Reda. Cette réforme en cours de négociation au Parlement européen concerne avant tout le droit d'auteur et de la création à l'heure du numérique. Mais elle pourrait s'étendre aux éditeurs de presse en reconnaissance, je cite, de leurs investissements et de leur contribution à la création de contenus journalistiques de qualité. Objectif affiché, pouvoir négocier l'utilisation de leurs contenus avec les services en ligne qui les utilisent ou en permettent l'accès et d'autre part, lutter contre le piratage. Alors, traduction selon l'eurodéputée Julia Reda. En voulant créer ce droit voisin au droit d'auteur sur les articles de presse, on risque de limiter la possibilité pour les internautes comme vous et moi de partager des liens en provenance des sites d'information en Europe. Deuxième élément qui est également dénoncé par la Quadrature du Net, la censure automatisée des contenus partagés pour vérifier s'ils ne correspondent pas à des œuvres protégées engendrerait tout simplement la création de véritables machines à censurer. Pourquoi ? Eh bien parce que les robots chargés de surveiller les partages mis en place par des géants du numérique se transforment aussitôt en auxiliaires de police privée qui défendent le droit d'auteur. Cerise sur le gâteau selon Julia Reda, les sites relayant de fausses nouvelles sponsorisés par des états situés hors du vieux continent comme par exemple Russia Today ne seraient pas soumis à cette contrainte contrairement aux grands journaux européens. Résultat, la réforme du droit d'auteur en Europe pourrait bénéficier aux sites de propagande ou de fake news qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est d'être pillés, partagés et relayé. Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un coup d'œil à la campagne Save the Link, qui est plutôt bien faite et qui vous aidera à y voir plus clair dans ces enjeux. Où sont les femmes sur Wikipédia ? C'est ainsi que la journaliste du Guardian, Laura Bates, interpellait en décembre dernier l'encyclopédie collaborative Wikipédia. En effet, 83% des biographies qui sont consacrées à des personnalités sur Wikipédia le sont à des hommes. Et c'est ce que rappelle Philosophie Magazine dans sa dernière livraison, qui tente d'ailleurs d'y chercher des raisons. Leur exclusion historique de la vie publique est sans doute l'un des facteurs de cette inégalité criante, mais le fait que 15% seulement des contributeurs sur Wikipédia soient des femmes est évidemment à prendre en compte. D'ailleurs, entre parenthèses, ces proportions sont à peu près les mêmes quand on regarde les fans de l'atelier des médias. Alors, mesdames, n'hésitez pas à montrer que vous occupez le terrain. Contribuez donc sur Wikipédia, bloguez et continuez d'interagir avec nous et de vous faire entendre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent revenir sur quelques-unes de ces brèves, je vous rappelle qu'à l'atelier, on tweet presque tous qu'on brève au micro, donc tous les liens sont à retrouver dès maintenant sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media.
RFI.
Dans son livre « Surveillance » publié en octobre 2016 aux éditions C&F, Tristan Nitto, fondateur de Mozilla Europe et ancien membre du Conseil National du Numérique, tente de faire le tour de tous ces dispositifs numériques qui nous surveillent au quotidien. Oui, parce que vous vous souvenez peut-être de l'adage « Si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous ». Alors Tristan Nitto s'efforce au fil des pages d'apporter des solutions pour reprendre en main le contrôle de nos vies numériques. Quand elle a vu le sous-titre de son ouvrage « Comprendre et agir », notre reporter Marie-Stéphanie Servos est partie à sa rencontre pour tenter d'en savoir plus. Et vous allez voir, surveillance2.//, c'est un peu plus qu'un livre, c'est d'abord une mise en garde.
Alors c'est un livre qui explique comment, en fait, on est en train de se diriger vers une société de la surveillance, puisque avec on utilise nos ordinateurs et avec on utilise des services type Gmail, Facebook et autres qui concentrent nos données. Et puis, au final, nos données, elles sont sur des serveurs de société dont le métier est de nous profiler, de tout savoir sur nous. Après les révélations Snowden, on a appris que la NSA voulait écouter tout le monde et que ça leur coûtait trop cher. Donc, ils allaient piocher les données chez Google et Facebook et d'autres.
Pourquoi vous avez choisi d'intituler ce livre « Surveillance 2.//?
C'est un clin d'œil au protocole d'Internet. Donc, on se souvient du http://facebook.com, par exemple. Donc, il y a un mode de communication qui explique qu'en fait, c'est pas HTTP qui est en train de se mettre en place, c'est plutôt un protocole de surveillance qui est en train de se mettre en place au niveau de la société. J'adore vos questions sur Google Drive.
Eh oui! Mais
mais la protection des sources.
Bah justement, Google, parlons-en, on va en parler tout de suite. Dans votre livre, vous expliquez qu'il faut littéralement bannir l'utilisation de Gmail. Pourquoi et comment surtout ?
Alors, c'est pas tant qu'il faille bannir, il faut juste déjà être conscient de ce que la gratuité de Gmail implique. Concrètement, Gmail, c'est offert gratuitement. On a l'impression que c'est gratuit parce qu'on leur donne pas d'argent. En fait, on échange nos données personnelles contre le service Gmail. Et c'est absurde, en fait. Plutôt, c'est une mauvaise affaire. C'est pareil avec Facebook. Facebook prend toutes vos données et vous donne en échange un service qui leur coûte 5€ par personne et par an. D'autant que ces données, ensuite, elles peuvent être utilisées contre vous. Et là, on est mal.
Le fameux « si c'est gratuit ».
C'est vous le produit. Ce qui est une expression que j'utilise moins souvent, mais j'ai plutôt tendance, par exemple, à faire une analogie avec avec les cochons dans une porcherie. J'imagine deux cochons en train de discuter. Il y en a un qui dit à l'autre « j'adore cet endroit parce que la nourriture est gratuite ». Et l'autre lui dit « et en plus, on est logé gratuitement, c'est formidable ». Avec Google, Facebook et tous ces services gratuits, c'est exactement pareil. On est les cochons du numérique. Bon, évidemment, on finit pas découpé en tranches, mais on est finalement le produit qui est vendu et même le consommateur aussi de ce produit.
Est-ce que c'est pas inaccessible pour monsieur et madame Michu de vouloir dégoogliser l'internet comme le dit Framasoft, justement, que vous soutenez, je crois savoir par ailleurs?
Alors, effectivement, c'est un défi que de dire il faut trouver une alternative à Google et à Facebook. Mais des défis, moi, j'en ai vécu d'autres. J'ai passé 17 ans de ma vie sur un projet qui s'appelle Mozilla, qui a donné lieu à Firefox, à une époque où, j'ai monté l'association Mozilla Europe en disant, avec pas d'argent et quelques bénévoles, on va aller renverser Microsoft et Internet Explorer, on va offrir une alternative de meilleure qualité. Et pourtant, ça a marché, Firefox et 500 millions d'utilisateurs. Donc des défis un peu délirants dans l'informatique, c'est quelque chose qu'il est possible de relever et peut-être de gagner. Moi, ce que je voudrais, c'est expliquer aux gens que ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire fondamentalement, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Vous stockez vos données dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre avec des logiciels que vous ne contrôlez pas.
Est-ce que, du coup, on peut dire, en quelque sorte, qu'il y a un choix à faire entre l'utilisation d'Internet et la vie privée?
Non, pas du tout. On peut pas dire ça. Je comprends qu'on puisse avoir cette impression. Se dire, ah oui, c'est fichu, on peut pas utiliser d'autres. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Et la raison pour laquelle, en fait, dans mon livre, il est sous-titré « Comprendre et agir », c'est que je veux expliquer les racines du problème, mais je veux surtout démontrer qu'il existe des solutions alternatives qu'on peut utiliser dès aujourd'hui sans avoir à se résigner à être espionné.
Est-ce qu'on peut envisager notre avenir à l'image du roman d'anticipation de George Orwell, 1984 ?
Peut-être qu'on est en train de se construire une société à la 1984, encore que on fait pire, en ce sens que on paye très cher nos smartphones en leur disant d'utiliser les services de Google et de Facebook, et on leur donne les données volontairement et on finance ce système, ce qui est complètement hallucinant. C'est comme si les cochons qui sont fermés payaient eux-mêmes les barrières et les couteaux du boucher. Donc c'est aberrant. D'un autre côté, le futur, il n'est pas écrit. Il y a un penseur du numérique qui disait que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Et je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement dans cette approche. C'est-à-dire que dans le livre, j'explique les problèmes, mais j'explique aussi comment on peut les résoudre. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme un outil informatique, ce que j'ai appelé le circus, les systèmes d'information redonnant le contrôle aux utilisateurs. Eh bien, voilà, on peut inventer des circus, des systèmes décentralisés qui utilisent des logiciels libres, du chiffrement, et qui soient mis à la disposition de chacun pour que chacun soit maître de ces données.
C'était Tristan Nitto au micro de Marie-Stéphanie Servoz pour son livre Surveillance de ./ Les libertés au défi du numérique, comprendre et agir, un livre publié aux éditions CEF. Je vous propose de prolonger dans un instant ces réflexions sur la surveillance en abordant la thématique de la sécurité informatique et de la cyberguerre, comme on dit, avec Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité. Allez, à tout de suite après le flash. Atelier des médias, seconde partie. Pas une semaine ne passe désormais sans que l'on entende parler du rôle des pirates informatiques russes dans l'élection présidentielle américaine, des velléités de la Corée du Nord en matière de cyberattaque, mais aussi des risques que font peser des écoutes sur nos libertés et nos démocraties. Et je ne parle même pas des vols réguliers à grande échelle de millions de données d'utilisateurs hébergées par des multinationales, pas toujours suffisamment armées pour sécuriser ces informations sur vous, sur moi et sur toutes nos données. Depuis que le cyberespace, comme on dit parfois, existe, il reste donc tout un monde à inventer. Il manque à ce territoire connecté, fait de 0 et de 1, comme un code de la route, un code de bonne conduite, voire un droit de la guerre explicite, comme on dit parfois, qui permettrait de s'entendre sur les règles du jeu, mais surtout sur la définition d'une cyberagression. Bref, j'ai envie de poser la question suivante, mais finalement, qui veut la peau des internautes ? Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
En gros, cela fait des années que vous écrivez, que vous parlez aussi sur des questions de sécurité informatique, de cyberguerre. D'ailleurs, oui, un fait intéressant pour annoncer la couleur. Votre pseudonyme sur Twitter, c'est...
Cyberguerre.
D'où vous vient finalement cet intérêt plus que marqué pour cette forme de conflit, Nicolas Arpagian ?
En fait, c'est de s'intéresser qu'à chaque fois qu'on a mis des outils numériques, des ordinateurs, des téléphones dans les mains des personnes, justement des utilisateurs, ils ont été amenés à en faire un usage offensif. Et donc, dès lors que l'on va s'intéresser à l'attaque, il est également utile de se préoccuper de la défense. Et tout cela crée un écosystème dans lequel on va retrouver des particuliers, des individus, mais également des entreprises, des états-majors, et puis toute l'activité criminelle qui peut justement être motivée par trouver de l'argent ou en tout cas porter des coups à ses adversaires.
Alors peut-être justement un premier enjeu pour nous, évident, c'est tout simplement de passer par un peu de définition pour essayer de cerner de quoi on parle. Vous qui avez beaucoup écrit sur ces questions et qui êtes l'auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité, comment expliquer à ma grand-mère ou aux jeunes auditeurs qui nous écoutent depuis Bamako ou Port-au-Prince ce que c'est que la cybersécurité ?
En fait, c'est la capacité à protéger tout ce que l'on produit, tout ce que l'on est de manière numérique. En fait, dans cet univers, ça peut être pris, on peut prendre le contrôle à distance. Pour faire simple, il y a deux composantes. La première, les tuyaux, votre système informatique, l'ordinateur que vous avez à la maison, au bureau. On peut rentrer dedans de manière à espionner tous les usages que vous en faites. Ensuite, l'étape d'après peut être éventuellement de modifier quelques éléments de cet ordinateur de manière à ce que quand vous tapez un A, bah, c'est un E qui va apparaître, ou lorsque vous commencez à élaborer des formules mathématiques, bah, on va essayer de les modifier de manière à la rendre inopérante. Troisième possibilité dans un système d'information, c'est éventuellement de le suspendre, faire en sorte que pendant certaines minutes, pendant certaines heures, il ne marche pas. Et enfin, de le mettre hors d'état de fonctionner. Alors vous vous doutez bien que ces attaques, elles peuvent viser des particuliers certes, mais également des administrations et des processus industriels. Deuxième composante, les contenus, l'information qui a une valeur. Je rentre dans le système de manière à capter cette information, d'une part pour en prendre connaissance, mais également, pourquoi pas, pour la publier, de manière à créer une perturbation et ainsi attaquer mon adversaire. Et éventuellement, je peux diffuser de fausses nouvelles de manière à affecter la réputation de quelqu'un, voire modifier son cours de bourse, ou en tout cas faire en sorte que l'opinion publique ait une idée fausse de ce qu'il représente.
Alors là, on a eu une vision tout de suite un peu globale et rapide. Si on redescend un petit peu sur l'emboîtement des notions, on voit que adossé à la notion de cybersécurité, il y a celle un peu de cyberespace. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce cyberespace ? C'est le nom un peu pompeux et ancien, devenu de facto synonyme d'Internet, c'est-à-dire cet espace de communication internationale qui est créé par l'interconnexion mondiale des ordinateurs. Est-ce que je me trompe ?
Effectivement, c'est un maillage qui fait d'ailleurs qu'on parle qu'il est résilient. On parle du web, du World Wide Web. Pourquoi ? Parce que ça fait penser à cette toile d'araignée. Dès lors qu'un pan de la toile serait cassé, serait brisé, effectivement, l'information, la connexion peut se faire par d'autres éléments du maillage. C'est ce qui permet d'être résilient, c'est-à-dire de résister à un certain nombre d'attaques importantes.
Et j'ai l'impression que l'un de vos credos, c'est de dire, en un certain sens, que l'Internet, ça sert aussi à faire la guerre.
Ça sert en tout cas à tous les usages de la vie humaine, et il s'avère que depuis qu'il y a 2-3 hommes sur Terre, ils s'affrontent, ils se tapent dessus, et donc il n'y avait aucune raison que ce territoire numérique échappe à cette tendance profondément humaine à s'affronter.
Donc on y arrive, il va falloir définir cette fameuse notion de cyberguerre. En un mot pour vous, comment le dire très rapidement aux auditeurs ?
Alors en fait, il s'avère qu'il faut déjà parler de la guerre. La guerre, c'est une activité qui est donc, comme je le disais, éminemment humaine. Par contre, au fur et à mesure des siècles, elle a été codifié. On a établi ce qui s'appelle un DCA, un droit des conflits armés. Dans le cas de Convention de Genève, des Nations Unies, on a établi ce qu'était la déclaration de paix, la déclaration de guerre, le traitement pouvant être réservé aux populations civiles, aux militaires, et ainsi on a un peu codifié cette manière de s'affronter et évidemment, hélas, tragiquement, de se donner la mort. Il s'avère que dans l'univers du cyberespace, on va être à même de porter des coups, c'est-à-dire de voler de l'information, éventuellement de détruire des infrastructures, voire des effets qui peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine. Par contre, on est dans un univers où, pour l'instant, le droit n'existe pas et toute cette codification qu'on avait établie dans le monde physique n'est effectivement plus de mise. Et c'est pour ça que, dans cet univers, on n'est pas un État contre un autre État, forcément, qui est une logique de symétrie où des entités de même nature, de même taille, sont capables de s'affronter. Sur Internet, ça peut être, au contraire, l'accomplissement de l'asymétrie. Ça veut dire qu'un individu isolé peut attaquer une grande entreprise, voire éventuellement un collectif de personnes qui ne se connaissent pas mais qui ont ensemble cette motivation et dans différents points du globe peuvent se coaliser pour attaquer une organisation étatique.
Nicolas Arpagian, je vous propose de faire un peu d'archéologie justement de la cyberguerre pour qu'on sorte un peu des concepts. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite du côté de Tallinn en Estonie.
Préparer la cyberdéfense de l'OTAN, c'est le rôle de ce centre tout près de Tallinn. Tout récemment, des exercices ont été menés pour simuler des cyberattaques et l'Estonie en connaît un rayon. Ce pays d'1,3 million d'habitants est hyper connecté, quasiment tout se fait en ligne, mais c'est aussi sa vulnérabilité. En 2007, alors que les tensions étaient très vives avec la Russie, des hackers russes ont paralysé le système. Cela a souvent été décrit comme une cyberguerre contre l'Estonie, mais c'était plutôt du cyberhooliganisme organisé. Les ordinateurs et les réseaux peuvent être des équipements utiles, mais aussi des armes.
On a écouté donc un extrait d'un reportage d'Euronews qui portait sur ce centre de l'OTAN, donc perdu en un certain sens dans la pampa estonienne. Alors, l'Estonie en 2007, cyberhooliganisme ou cyberguerre, Nicolas Arpagian?
Alors, en tout cas, il n'y a pas une mort d'homme. Et c'est vrai qu'on a tendance à consacrer le terme de guerre pour l'engagement de personnel sur les théâtres d'opération. Là, on est resté dans un monde éminemment numérique. Par contre, ça a créé d'énormes troubles puisque, effectivement, l'Estonie est un pays qui avait fait le saut numérique de son économie, de son organisation administrative. En tout cas, ce qui est certain, c'est la première fois qu'on a vu incarner à l'échelle d'un pays entier, même fut-il de petite taille, un moment ce que représente la paralysie numérique quand les administrations, un certain nombre de médias, d'entreprises sont mis hors d'état de fonctionner avec le fait, si cela avait pu durer, effectivement, autant de troubles à l'ordre public, de gens qui peuvent s'inquiéter quant à l'argent qu'ils ont en banque, leur capacité à trouver de la nourriture. C'est effectivement un cas d'école qui marque le début d'une prise en compte du numérique dans l'affrontement interétatique.
Deuxième aspect mentionné par cet extrait, c'était finalement le rôle prêté aux Russes. Pourquoi dès lors qu'on parle d'attaque informatique, la figure du pirate russe est présentée comme un personnage incontournable, Nicolas
Alors,
Arpagian.
Dans cette affaire estonienne, il s'avère que là, il y avait un contexte politique puisque c'est venu notamment d'une statue qui célébrait en son temps la libération, entre guillemets, de l'Estonie par l'armée rouge et le gouvernement d'Estonie avait envisagé de la déplacer dans un cimetière militaire en périphérie de la ville. Et manifestement, un certain nombre de Russes, de citoyens russes avaient trouvé cette démarche déménagement comme étant outrageant et donc avait manifesté leur opposition. En tout cas, là, on était dans un contexte politique qui permettait d'envisager une responsabilité russe qui, après, d'un point de vue technique, n'a pas réellement été établie, mais le contexte de l'affaire permettait d'envisager tout à fait une responsabilité russe.
Si on revient sur l'expression pirate informatique russe, quand on est au service d'un État, est-ce qu'on est un pirate ou un soldat, Nicolas ?
Alors, ou un corsaire, puisqu'en fait, effectivement, si on fait l'analogie maritime et historique, la question, c'est que, en fait, la particularité dans l'univers cyber, c'est qu'on voit les deux cas. C'est-à-dire, on voit le cas où ce sont des permanents de forces armées, et il s'avère qu'aujourd'hui, tous les pays ont développé une expertise tant à l'attaque qu'à la défense, et là, on a affaire à des soldats dans le cadre d'unités dédiées à cela, que ce soit en Chine, en Israël, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il y a des personnels qui ont été formés à cela. Ensuite, on peut tout à fait, et on le constate, voir l'adjonction de forces supplétives, c'est-à-dire des organisations criminelles, des militants, qui peuvent être utilisés comme complément pour justement leur expertise, venir en renfort ou de manière à ne pas impliquer de manière certaine la responsabilité d'un État. C'est un univers où en fait ce qui compte c'est l'efficacité. C'est pas tellement que l'attaque soit belle, c'est surtout qu'elle permette d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.
Et justement, vous avez eu une expression qui est assez marquante que j'ai lue quelque part. La cyberguerre, ce n'est pas une guerre au sens que l'on connaît. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on y porte des coups.
On y porte des coups parce que, et d'ailleurs c'est toute la difficulté, que c'est un terrain d'expression pour la concurrence diplomatique, la concurrence militaire, mais également et surtout la concurrence économique. Et là, à ce moment-là, le champ des rivaux s'étend considérablement, parce que par exemple, nous avons appris que un certain nombre de services de renseignement allemands écoutaient les dirigeants français, alors que par ailleurs, nous sommes des alliés politiques, des alliés diplomatiques, mais on a bien vu que quand était pris en compte le champ de l'économie, là, à ce moment-là, c'est du chacun pour soi, même des pays démocratiques, européens, intégrés dans la grande famille justement des 27 ou des 28, à ce moment-là, peuvent s'affronter de manière numérique. Pourquoi ? Parce que ils ont la conviction que leur responsabilité ne pourra pas être démontrée. Et donc, ce sont des coups que l'on se fait entre partenaires, j'allais dire entre gens de bonne compagnie, à une seule condition, ne pas se faire prendre.
Je rappelle aux auditeurs qu'on est bien dans l'atelier des médias de RFI, et ici, on a l'habitude de parler, Nicolas Arpajon, plutôt d'accès à l'information et d'accès à la connaissance. Et justement, globalement, j'ai l'impression, à vous lire et à m'informer un petit peu sur ces questions, que l'on assiste à une forme de militarisation du cyberespace, c'est-à-dire de l'Internet. Est-ce que je me trompe ?
Alors en fait, c'est la qualification de militaire n'est pas forcément importante. Pourquoi ? Parce que la particularité de l'univers numérique, c'est justement de gommer, d'estomper les frontières entre ces grands domaines que l'on connaissait dans la vie physique, c'est-à-dire les civils, les militaires, l'économie. Là, au contraire, on va s'apercevoir par exemple que lorsque l'on veut attaquer la présidence de la République française, accéder au secret de ce qu'on appelle le château, le palais de l'Élysée, il s'avère que les pirates, en l'espèce des Américains, puisque leur responsabilité a été établie, est passé par le compte Facebook d'un collaborateur du président de la République. Et vous voyez bien que c'est dans la vie personnelle de cet individu que la contamination et l'infection de l'intranet de l'Élysée a été rendue possible. Donc on n'est plus tellement forcément dans l'engagement de personnel formé, militaire, entraîné sur un théâtre d'opération. Si on peut passer par le compte Facebook d'un conseiller du président pour atteindre l'Élysée, c'est la méthode qui va être retenue.
Alors c'est marrant, à vous écouter, on se demande comment on peut faire pour identifier ses ennemis. Et en travaillant finalement la préparation de cette émission avec Marie-Stéphanie Servos, je me suis rendu compte que la marque de fabrique des attaques, notamment en provenance de Russie, si j'ai bien compris, c'est qu'elle ne se cache pas. En fait, elle laisse des traces. Est-ce que je me trompe ?
Alors, oui, un peu, parce que en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'ailleurs dans les rapports que la Maison-Blanche, ou en tout cas Barack Obama, les a révélés et rendus publics. Pour l'instant, on n'a pas ce que dans le monde criminel, on parle du smoking gun, le pistolet fumant que l'on trouve dans la main de celui qui vient de tirer sur et de tuer quelqu'un. Là, en fait, on a un faisceau de preuves. Ce sont des éléments disparates qui viennent s'ajouter les uns aux autres et qui permettent d'établir une conviction. Mais c'est à chaque fois des éléments qui peuvent être soit contredits, soit éventuellement relativisés. Par contre, et c'est sûr que par touche, de manière un peu impressionniste, il dessine une responsabilité. Il dessine un auteur de ses actes, ou en tout cas, un bénéficiaire. Ce qui est certain, c'est qu'il n'existe pas, dans le cas des attaques envisagées même pour le Parti démocrate, la preuve non discutable qui apporterait et désignerait la responsabilité russe. Par contre, il y a ce que les juristes appellent un intérêt à agir. Évidemment, quel est celui qui peut bénéficier de ces pratiques ? En d'autres temps, on avait accusé la Chine, de même que quand il y a eu l'attaque contre les centrales nucléaires iraniennes, on a envisagé une responsabilité israélienne et états-unienne.
Mais si on revient par exemple sur le piratage du Comité national démocrate, qui est l'organe du parti aux États-Unis qui est chargé d'organiser les élections, on sait que ils ont été piratés, des courriels internes ont circulé, se sont retrouvés sur le site de WikiLeaks, et puis un peu plus tard, deux groupes ont été identifiés comme étant les responsables finalement de cette opération, le Cosibir et le Fancybir. Au fond, qui sont ces gens ? Est-ce que ce sont des mercenaires, des soldats ou pourquoi pas des anarchistes ?
Alors en fait, ce sont des opérateurs qui signent, ou en tout cas on trouve des éléments techniques qui permettent d'attribuer leurs responsabilités dans cette action. Par contre, évidemment, ils ne laissent pas une copie de leur carte d'identité. En fait, c'est plus par déduction, par analyse qu'on envisage de leur attribuer une origine russe. Mais là encore, il faut être très prudent, notamment lorsque l'on a une approche juridique, c'est de se dire, attendez, ce n'est pas parce que même ces personnes étaient de nationalité russe ou établies sur le territoire de la Fédération de Russie que cela signifie que le gouvernement, que les autorités russes ont non seulement sollicité, facilité, encouragé, financé ces opérations. Donc il faut à chaque fois être prudent. Pourquoi ? Parce que dans le monde physique, on n'aurait pas désigné à ce point la responsabilité avec, au final, aussi peu d'éléments. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tous les États ont développé une expertise offensive et défensive, et que celle-ci est mise au service des causes stratégiques. Les intérêts stratégiques d'une nation, ça, l'intégrité de son territoire, la protection de sa population, mais également la défense de ses intérêts économiques. Et sur ce terrain-là, effectivement, tous les coups sont permis.
Ce que je propose, c'est de revenir encore une fois et de resserrer un petit peu sur ce que c'est qu'une cyberattaque. Je vous pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a différentes écoles, en fait, en la matière. D'une part, soit on est essaie de déstabiliser finalement l'ennemi en s'attaquant au contenu échangé dans ce cyberespace. Donc en l'occurrence, ça peut être des fausses informations sur l'internet, soit on s'attaque aux infrastructures. Est-ce que c'est bien ça finalement les deux principales façons de guerroyer sur l'internet?
C'est exactement ce que j'expliquais dans les deux conditions, dans les deux composantes possibles de la cybersécurité et donc des modes de cyberattaque qui peuvent porter tant éventuellement sur les infrastructures que sur ce qui a aujourd'hui une valeur particulière, l'information.
Est-ce que c'est une arme de guerre avérée? Est-ce que c'est reconnu comme tel par des autorités?
Alors non, c'est pas codifié pour l'instant dans le droit international public. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette diffusion, cette propagation de fausses nouvelles, elle est dépendante d'une condition. C'est la réceptivité de votre auditoire. C'est-à-dire que si vous annoncez à l'antenne des choses fausses, manifestement fausses, qui pourraient d'ailleurs être assimilées à une plaisanterie ou en tout cas à un canular, là, la particularité des informations, notamment la mise en cause de soutien d'Hillary Clinton qui participerait ou aurait participé à des réseaux pédophiles, ce qui a suscité aux États-Unis le fait qu'un individu est allé avec un fusil dans un restaurant, pensant faire justice lui-même, puisque les fausses nouvelles avaient désigné ce restaurant comme étant le lieu de rencontre de ces soutiens prétendument pédophiles de Hillary Clinton. On voit bien que le curseur est difficile entre à placer entre la plaisanterie telle qu'elle peut être appréciée et comprise par un public et l'information visant délibérément à polluer le débat politique dans à l'occasion d'une échéance particulièrement importante.
En tout cas, je vous ai posé la question parce qu'on sait par exemple que dans la guerre civile en Ukraine en 2014, la tactique de désinformation et de perturbation faite par les Russes a fait ses preuves. Aussi, le récit officiel finalement des Russes s'est opposé frontalement à celui des médias occidentaux. Et je vous propose d'ailleurs de retrouver ce que racontait un article du Monde et qui explique que le Parlement européen a voté fin 2016 une résolution pour condamner la propagande hostile et les informations absolument fausse produite par Russia Today et par Sputnik et diffusée bien sûr sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela veut dire que des États s'entraînent à déstabiliser leurs voisins à ciel ouvert? Et est-ce que ça veut dire qu'on est en train de reconnaître le fait qu'il faut réussir à se positionner clairement sur ces questions?
En fait, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que la contre-information à partir de médias politisés, on prend l'exemple de Radio Free Europe, de Voice of America, au contraire de radios qui avaient vocation à être des audiences alternatives pour essayer de diffuser des nouvelles, effectivement c'est quelque chose d'essayer de faire de la contre-propagande ou de la propagande. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la capacité d'émission, de production, de diffusion et de duplication de l'information ont été facilitées par les outils numériques. Et donc, en fait, on peut voir surgir des foyers d'émission de contenu délibérément mensongers. Simplement, on n'est plus dans le scénario où il faut effectivement avoir des émetteurs financés par un État, mais c'est quelque chose de disparate, de totalement diffus et qui donc oblige à avoir, un sens des responsabilités et surtout, ce qui est salutaire pour les auditeurs, un esprit critique. Ne pas se considérer comme étant un utilisateur passif de l'information, ne pas être justement le simple réceptacle, mais effectivement d'exercer son analyse, son esprit critique, c'est déterminant, ce sont les meilleures armes contre la désinformation.
Je rappelle aux auditeurs que nous essayons de comprendre un peu plus en détail ce que c'est qu'une cyberattaque, ce que c'est que la cyberdéfense et justement les attaques, c'est aussi la récupération d'informations ou de données. Y a-t-il des risques qui pèsent par exemple sur les élections, sur le modèle de ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis?
Alors aux États-Unis, l'élection en Angleterre, le mécanisme électoral n'a pas été attaqué. Ce qui a été attaqué, c'est le système de messagerie du Parti démocrate et donc des informations qui avaient vocation à rester confidentielles ont été portées à la connaissance du public, notamment concernant des tensions au sein du Parti démocrate. Par exemple, que Bernie Sanders n'était pas le favori des principaux permanents du parti, que Hillary Clinton avait reçu les questions avant un débat public entre les candidats. Enfin, des éléments qui sont venus perturber le bon déroulé de l'élection. La deuxième chose, c'est la question qu'on peut se poser justement, c'est est-ce que le vote en tant que tel, c'est-à-dire l'intégrité de la comptabilité des bulletins et de celle qui va remonter dans les services du ministère de l'Intérieur, et ça c'est tout le rôle de l'ANSSI, Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information en France, en parallèle avec la Direction Générale des Systèmes d'Information et de Communication du ministère de l'Intérieur, qui vont travailler à conserver justement l'intégrité des communications de manière à ce que tous ces votes que l'on va agglomérer puissent être comptabilisés de manière certaine dans le système du ministère de l'Intérieur. On va effectivement, il y a quelques machines à voter qui sont en activité, alors elles ne sont pas connectées à Internet, mais d'ailleurs un parlementaire de la majorité, M. Pietrasanta, appelait de ses voeux et encore hier à l'Assemblée nationale le fait de supprimer le vote électronique, même s'il est extrêmement minoritaire en France, mais dans le cadre justement du doute qui pourrait survenir quant à la bonne prise en compte l'ensemble de ces scrutins.
Nicolas Arpagian, je vous propose de continuer. Donc on a vu le volet finalement autour de la déstabilisation de l'information disponible dans un espace, dans un pays, sur un territoire. Et dans le même temps, il y a aussi les câbles et les infrastructures elles-mêmes qui peuvent être ciblées. À la fin de l'année 2016, notre confrère Xavier Delaporte avait repéré sur France Culture un article d'un des experts les plus reconnus, si j'ai bien compris, sur ces questions, Bruce Schneier. Et que disait ce dernier ? Eh bien que quelqu'un ou un groupe, en tout cas, était en train de s'entraîner à attaquer des entreprises finalement clés dans les infrastructures de l'Internet. Et Bruce Schneier d'expliquer, en substance, je cite, que la puissance et la durée des attaques montrent que c'est sans doute un État qui se trouve derrière ces attaques. Comme si le cybercommandement d'une armée était en train de calibrer ses armes en cas de cyberguerre. Alors deux questions. Un, qu'est-ce que cela veut dire ? Et puis, est-ce que ça veut dire que vraiment ces infrastructures sont aujourd'hui menacées finalement ?
Alors gardons à l'esprit qu'Internet n'est pas un gaz, c'est pas un nuage qui se déplace, ça passe forcément par des tuyaux. Donc c'est pour ça que se pose la question des infrastructures. Lorsque l'on parle de câbles sous-marins, ça peut paraître surprenant parce que évidemment c'est un monde éminemment physique, alors qu'on est tourné vers le numérique. Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut à un moment que les données circulent de manière physique. Ça, c'est important. Donc il va falloir protéger ces infrastructures. On se rappelle il y a quelques années d'une paysanne arménienne qui d'un coup de pioche avait coupé le câble qui reliait l'Arménie numériquement au reste du pays, du continent. Effectivement, on peut comme ça physiquement couper l'Internet. Deuxième chose, en fait, les attaques qui sont évoquées sont celles notamment, ce qu'on appelle le déni de service, lorsque justement un nombre important d'ordinateurs infectés à l'insu de leur légitime propriétaire reçoivent simultanément l'ordre de se connecter, par exemple, à un site Internet. Là, il faut envisager l'image un peu d'une digue qui doit retenir un flot. Il est évident que celui qui va actionner le tuyau d'eau qui va déverser l'eau va pouvoir éventuellement jouer sur la pression et voir si le mur en face résiste, voir si le mur, éventuellement, on est en mesure de rajouter quelques parpaings de manière à ce que l'eau ne passe pas. À ce moment-là, il va augmenter son débit et voir qui gagne. Les militaires ont l'habitude de parler du glaive contre le bouclier. Vous avez un glaive imposant, vous avez un bouclier qui doit l'être encore plus, et ainsi de suite, de manière à essayer de vaincre un camp ou l'autre. Dans le cas du test, c'est effectivement la référence à un État a été envisagée. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça demande de gros moyens, et donc des investissements préalables importants. Deuxièmement, c'est un travail sur la durée. Ça veut dire qu'on teste des infrastructures, ça prend du temps et donc ça consomme de l'argent. Souvent, les criminels qui sont strictement dans une logique crapuleuse volent de l'information, mènent des coups et essayent de la rentabiliser à court terme. Là, effectivement, dès lors qu'on est sur un temps plus long, qu'il n'y a pas de bénéfice immédiat tiré d'un point de vue sonnant et trébuchant, on est effectivement davantage dans la ressource d'un État qui cherche éventuellement à avoir d'une part sa capacité à attaquer, mais surtout s'interroge sur comment réagissent les infrastructures lorsqu'elles font, elles sont ainsi mises sous pression. C'est effectivement une évaluation de la résistance de l'adversaire. C'est un des éléments impérieux lorsque l'on veut mener une offensive plus tardivement.
En tout cas, rapidement, ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu que les volets concernant la cyberattaque sont extrêmement complexes à cerner. Qui est l'ennemi ? Quelles sont les lignes de front ? Quels sont les intérêts qui sont derrière ? Ce que je vous propose, c'est rapidement maintenant de voir le volet un peu défensif. De quelles armes dispose-t-on finalement pour faire face à de telles attaques ?
Alors en fait, en France, si on prend l'exemple, on a décidé de scinder la défense de l'attaque. Donc la défense est confiée à une agence, Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Elle est composée de militaires, de civils, de fonctionnaires, de contractuels. Et l'idée, c'est que justement, elle a vocation à protéger les infrastructures critiques de l'État, mais également de contribuer à la surveillance de ce qu'on appelle des OIV, des opérateurs d'importance vitale, 260 entreprises à travers le pays. Alors on a fait une définition... à contrario de cette population, c'est 260 entreprises dont, si elles devaient faire défaut, elles mettraient en péril le collectif France. C'est-à-dire que, dans le domaine de l'énergie, du transport...
De l'information
Alors, dans une certaine mesure, oui, de l'information, notamment à des fins après de diffusion des informations au grand public si une crise devait survenir, voire de maintenir le service public de l'école, de manière à ce que des canaux de diffusion d'information permettent aux gens qui sont confinés chez eux de continuer à ce que leurs enfants soient formés si cela devait durer. Et on a établi cette liste, et là par contre l'ANSSI, très vigilante, impose des critères de sécurité à ces entreprises et impose le recours à des prestataires qu'elle a dûment labellisés. Effectivement, ça oblige ces entreprises à avoir un haut niveau, ou en tout cas un niveau supérieur de sécurité, parce qu'on considère que leurs activités imposent cette précaution supplémentaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la défense, elle est à la fois ambitieuse et réaliste. Ambitieuse parce qu'on cherche à faire en sorte de tenir malgré des cyberattaques est réaliste, parce qu'on se dit voilà, maintenant les attaques peuvent prendre des formes multiples, il va falloir que je sois suffisamment réactif pour répondre à des modes d'agression extrêmement divers.
Nicolas Arpagian, vous preniez l'exemple finalement de la France, mais quid finalement de la situation pour nos auditeurs en Afrique, au Proche-Orient ou à Haïti? Sont-ils démunis face à ces menaces?
Alors en fait, vous avez raison de parler de chaque pays. Pourquoi? Parce que autant vous avez vu dans le cas de l'OTAN, dans le cas de certaines alliances, on mutualise, on partage les ressources. Dans le domaine du cyber, c'est du chacun pour soi. Fait en sorte, chaque État tient à conserver son autonomie, tant à la défense qu'à l'attaque. Même l'Union européenne, la grande famille européenne, a créé une petite agence, l'ENISA, basée en Crète, avec un budget symbolique de 10 millions d'euros. On voit que c'est pas là que se décidera la stratégie européenne de sécurité, vraiment, j'allais dire, de chaque État. C'est du chacun pour soi. Pourquoi? Parce qu'on est ici au creuset de la défense, de la protection des intérêts économiques et éventuellement d'une activité offensive. Chaque État tient à conserver la main sur ces éléments-là et éventuellement négociera en bilatéral avec d'autres États qui pourraient lui apporter des informations très utiles à sa défense ou à ses modes d'attaque.
Nicolas Arpagian, tout ce que vous racontez est passionnant, mais l'heure, c'est l'heure et je vous propose de continuer cette conversation en ligne sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes notamment l'auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité, d'un livre sur la cyberguerre et que l'on vous trouve facilement sur Twitter sur le compte @cyberguerre. Merci.
L'Atelier des médias.
Toutes les références, tous les liens sont à retrouver sur notre site atelier.rfi.fr. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servoz, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
La cinquième édition de la...